8h12 minutes hier, ça faisait un an que le régime syrien tombait, en fait, le régime de Bachar al-Assad. Et ben, actuellement, c'est celui qui assume l'intérim, Ahmed al-Sharaa, qui dirige la Syrie. Quel bilan on peut faire, justement, du départ de Bachar al-Assad? Ben, nous allons en parler avec Sami Aoun, professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Sami.
Bonjour, Michel.
Il y avait beaucoup d'espoir suite à l'effondrement de ce régime, finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire au bout d'un an? Finalement, on craignait l'instabilité du régime. C'est pas tout à fait ce qui est survenu. Les craintes ne sont pas estompées, mais quel bilan on peut faire un an plus tard?
Certainement, l'espoir est ouvert maintenant pour les Syriens. Il y a un certain momentum. Après la fin de la dictature ou le pouvoir autoritaire de Assad depuis à peu près la famille Assad depuis soixantaine d'années. Alors, mais cette fois-ci, on a un premier an après Assad qui a été plus pratiquement pour consolider la présence de cette nouvelle administration de Ahmed al-Sharaa, de un, s'assurer que ses propos djihadistes ou salafistes anciennement sont déjà devenus peut-être plus en faveur d'un état de droit et de la stabilité à ce point. Hier, dans ses discours, il a insisté beaucoup sur de nouveaux concepts qu'il n'a pas utilisés beaucoup auparavant. La question de la citoyenneté, la question de la participation de toutes les composantes du peuple syrien. Aussi, il a parlé de la justice transitionnelle. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus sérieux pour la nouvelle année. Mais le premier, peut-être, bilan qu'on pourrait dresser pour le nouveau pouvoir de Al-Sharaa, c'est la consolidation diplomatique et stratégique de la position de la Syrie. On voit très bien qu'il est encadré par deux grandes puissances musulmanes et arabes, l'Arabie saoudite, qui finance et qui certainement injecte beaucoup d'argent dans le trésor syrien, et aussi la Turquie qui l'encadre au niveau de la sécurité. Et l'autre point qui est le plus important, aussi il a fait des percées dans les capitales occidentales, comme aussi avec la puissance la plus rivale qui lui a fait beaucoup mal, la Russie. Mais peut-être la locomotive est plutôt celle des États-Unis. L'administration Trump met tout son poids pour sauver ce régime des dérives, qu'il soit des guerres ensanglantées ou autres. Et en ce sens, les États-Unis deviennent le garant le plus important pour s'assurer une transition vers un état de droit ou une Syrie qui respecte la pluralité, qui respecte sa diversité communautaire. On a trois points qui restent assez importants. Les relations entre le pouvoir central et la communauté alaouite, qui a été identifié à l'ancien régime Assad, puisque c'est sa base populaire et confessionnelle. Et sur ce point, on a des craintes que peut-être avec l'Iran ou les anciens fidèles au régime Assad, qui puissent peut-être de mobiliser la communauté alaouite contre le pouvoir de Al-Sharaa. L'autre point qui est important, c'est les Kurdes. Malgré la signature d'une entente avec le régime Al-Sharaa, on voit que les Kurdes sont réticents, ils ne veulent pas intégrer de façon à leur faire perdre leur autonomie ou leur identité kurde à l'intérieur d'un régime islamiste qui ne croit pas nécessairement à un certain particularisme kurde. Les Druzes, de l'autre part, aussi sont une communauté qui est aussi avec ses origines ismaéliennes un peu ou chiites, comme on dit, mais pratiquement est endossé sur Israël et on a vu l'émergence d'un leadership chez les Druzes qui appelle soit à la séparation, soit à une alliance même publiquement avec Israël. Alors c'est aussi un point d'inquiétude. Mais tous ces points sont plutôt soit encadrés par les États-Unis, soit par la Turquie, soit par l'Arabie saoudite, pour que la Syrie revienne un peu à un certain momentum pour aller vers un état de droit, une stabilité au moins.
Mais est-ce que vous êtes surpris de la performance d'Ahmed al-Sharaa, qui était quand même un djihadiste, là, c'est un combattant. Il a beau dire, moi, j'ai jamais tué personne, je faisais partie des rebelles, parce que là, il a été un peu proclamé le leader maintenant de la Syrie, sauf qu'il doit y avoir des factions djihadistes qui s'attendent justement à ce qu'il aille dans leur sens. Est-ce que lui, sa situation, elle est précaire?
Pas nécessairement précaire, mais il y a beaucoup de risques, qu'ils soient par des maximalistes, des ultra-conservateurs, ultra-violents qui sont dans son
Oui.
entourage, et surtout des factions qui ne sont pas syriennes, comme les Ouïghours ou les Ouzbeks ou autres. Mais pratiquement, Achara s'est imposé, soit par sa performance personnelle. On le voit, un tribun qui a une bonne maîtrise de la langue arabe, il a une confiance en lui-même. Il y a quand même séduit ses ennemis, que ce soit les Américains, soit d'autres. Alors, en ce sens, il a fait une mutation quand même assez spectaculaire au niveau de sa personne, le choix de ses mots, le choix de sa culture. D'ailleurs, on sait que son père aussi est un académicien bien connu. Mais donc, la performance personnelle a séduit. C'est pourquoi on voit dans les sondages, surtout le dernier de Baromètre arabe, qui est quand même une institution très respectable dans le monde arabe, on voit que la confiance en sa personne est allée autour de 80% et plus. Et c'est en ce sens qu'il va aussi montrer quand même une aspiration qui est chez les Arabes sunnites en général, qu'ils soient au Liban ou ailleurs, et en Syrie surtout, que ce sunnisme politique a repris un visage qui a été quand même, je dirais, peut-être aveuglé par la présence des Assad qui sont des Alaouites. Alors il y a cette aspiration sunnite qui s'identifie à Achara pour le moment. L'autre point qui est important, on sait très bien que dans son parcours, il a su comment éliminer ses rivaux par de la force, par de la contrainte ou par la conviction. Et c'est un homme, pour le moment, il n'a pas fait beaucoup de fautes au sens de l'exercice de pouvoir, mais sauf qu'il est limité par son idéologie islamiste qui ne laisse pas voir justement la diversité, la pluralité. Mais si on le remarque dans ses derniers discours, il a nuancé. Il dit qu'il ne veut pas un régime comme celui de l'Irak, c'est-à-dire un régime pluriconfessionnel où il y a des quotes-parts pour chaque communauté dans le pouvoir. C'est un point qui est assez intéressant et convaincant. Là où il n'est pas convaincant, est-ce qu'il veut vraiment ne pas voir ses aspirations des communautés comme les chrétiens, les druzes ou les kurdes et les alaouites? Ça, c'est un point à voir par après. Et aussi, il a commencé un peu vite par une déclaration constitutionnelle sans pratiquement concertation avec les autres, où dans cette déclaration, on voit qu'il y a une empreinte très forte d'un islamisme fucriste qui est redoutable pour les minorités non sunnites.
Est-ce que Ahmed al-Sharaa, pour la population syrienne, il est perçu maintenant de plus en plus comme un leader crédible?
Oui, pour l'instant, on revoit bien qu'il est un homme assez de confiance. On voit la mobilisation populaire, mais certainement il y a beaucoup d'enjeux. On s'attend de lui une performance économique. On sait très bien que le taux de chômage est très très élevé en Syrie. On voit très bien que la roue productive en Syrie, malgré les injections des aides qui viennent de l'Arabie Saoudite, du Qatar et même des Émirats Arabes Unis, tarde à donner des fruits directs. On sait très bien que c'est une Syrie au niveau sociétal. Elle est divisée, partagée, et sur ce point, il y a beaucoup à faire. Mais pratiquement, oui, la personne, si je comprends bien les sondages, je comprends comment, par exemple, les relations avec les grands dirigeants, qu'ils soient du monde arabe, du monde musulman, et surtout des pays occidentaux, et particulièrement les Américains, il semble qu'il est un homme de confiance. Et de le voir rebâtir ses relations avec la Russie, qui a pris en asile l'ancien président Bachar el-Assad, et voir comment il a quand même peut-être s'est approché de la Russie pour leur donner quelques privilèges au moment où la Russie craignait d'être exclue et éjectée complètement de la Syrie. Alors on leur donne un peu sur le littoral quelques intérêts, quelques privilèges. Alors sur ce point, il joue bien. Il a à peu près quand même une confiance qu'il vient des pays arabes, sauf peut-être un peu des réticences qui viennent de l'Égypte, qui viennent de l'Algérie, qui vient d'autres, mais pratiquement en général, il a un momentum arabo-musulman et syrien qui reste assez important pour le moment.
Oui, en terminant, vous l'avez mentionné, actuellement, le nerf de la guerre, c'est vraiment la situation économique. Il y a 90 % de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Il faut reconstruire la Syrie. Ça va demander des sommes colossales. Qui sont les personnes qui doivent absolument intervenir? Parce que ça, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas cette reconstruction au cours des prochains mois, des prochaines années, la population va commencer à être déçue là, de ce pouvoir. Mais quels sont les pays qui sont au rang parmi les principaux investisseurs?
Oui, avant, simplement, quand les Américains font tomber les sanctions, surtout ce qu'on appelle la loi César, pratiquement la Syrie va renforcer de nouveau encore ses relations avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. Alors la question des sanctions et la création d'un état de droit où il y a vraiment une jurisprudence assez claire pour garantir des investisseurs étrangers, il y a le premier point qui va arriver, c'est la diaspora syrienne. La diaspora syrienne est quand même assez intéressante et aussi elle est bien intégrée où il y a des grandes fortunes parmi les diasporas syriennes. Mais ce qui est le plus important, c'est justement les pays arabes du Golfe, particulièrement en tête l'Arabie saoudite, qui a tout intérêt à faire réussir à Sharia pour toujours bloquer le retour de l'Iran, sa puissance rivale chiite dans la région. Et tous les pays du Golfe sont presque en consensus pour appuyer cette Syrie et couper peut-être l'influence iranienne. Et on le voit au Liban où il y a quand même des pressions pour étouffer l'influence de Hezbollah et qui a un droit de veto sur l'État libanais. On voit aussi une démarche en ce sens. Pratiquement, les investisseurs les plus importants sont les pays arabes du Golfe et aussi les États-Unis qui est aussi miroite. Il y a beaucoup de projets qui pourraient intéresser l'administration Trump.
Mais dans le fond, la Syrie produit du pétrole. Ça pourrait aller rapidement si on assouplit les sanctions économiques. Finalement, la remise sur les rails de l'économie syrienne, elle peut être rapide parce que c'est un pays, entre autres, producteur de pétrole.
Oui, dans les dernières minutes à peu près, il y a eu une déclaration de l'Arabie saoudite qui prend en soin de tous les champs pétroliers et aller faire une rénovation technologique assez importante. Et sur ce point, donc, les Saoudiens qui ont déjà financé à peu près les salaires de la fonction publique, maintenant ils vont vers le pétrole. Et aussi, il ne faut pas oublier que la Syrie est riche, il y a beaucoup de blé, il y a beaucoup de ressources. Il y a par exemple le gaz qui est aussi à exploiter dans le littoral méditerranéen qui pourrait rapporter de grandes ressources pour et dividendes pour l'économie syrienne. Alors voilà, il y a des possibilités. Et aussi, on oublie souvent que Damas, c'est la plus ancienne capitale dans le monde. C'est la plus une grande histoire. Et aussi, c'est le cœur de l'Arabie, comme on dit. Alors pratiquement, il y a des possibilités. Et le peuple syrien est connu par son génie, par sa créativité, si vous voulez.
La prochaine année, en 30 secondes, c'est la plus critique?
Oui, certainement. Et aussi, on va voir, il y a maintenant un espace de liberté qui est assez élargi, mais il reste que les pouvoirs islamistes sur le terrain essayent d'interdire une certaine ouverture, comme par exemple interdire à un grand musicien syrien, Malik al-Jandali, de performer une opéra, une symphonie en Syrie. C'était peut-être un mauvais signal.
Ouais. Merci infiniment, Samy. Toujours très intéressant. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Au plaisir. Au revoir.
Merci. Sami Aoun est professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient à la chaire Raoul d'Endurant. Voilà qui complète cette édition du mardi 9 décembre 2025 de Debout VM. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à compter de 7 heures. D'ici là, portez-vous bien.